Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'épisode 9 de Jason Ballon Rond. Écoute, un podcast qu'on est toujours content de faire, même si on n'est pas tout à fait constant. On continue de le faire, puis ça, c'est très le fun. Malheureusement, Thomas Lafond a des problèmes d'ordinateur présentement. Il n'est pas avec nous. Mais je suis en compagnie de Doualé Ibrahim pour cet épisode. Toujours à son poste, le fidèle. Comment ça va, Dou?
Écoute, je vais très bien, Ali, et puis toi?
Moi, ça va. Ça va bien. Écoute, comme tu l'as dit aux premières loges, fin de session terminée. Là, c'est le stage en ce moment, mais ça va bien. C'est bon, il y a un petit le jingle un peu buggé?
Non, pour vrai, ça allait mieux que d'habitude. Parce que moi, j'ai trouvé que ça allait mieux que d'habitude.
OK, ben tant mieux. Écoute, on l'aime, notre jingle. Fait que super. Bon, épisode chargé, doux. À commencer par la Ligue des Champions. Là, on enregistre ça le jeudi. Il y a eu la Ligue des Champions mardi et mercredi, les demi-finales aller. Donc, ça, on va en parler grandement. Également, le CF Montréal qui, la dernière fois qu'on avait fait un épisode, n'allait pas très bien, si je me rappelle bien. Yes. Là, ils vont pas mal mieux. C'est même très, très mieux. Là. C'est 5 victoires d'affilée pour le CF. Yes. On va parler également de la Premier League qui est en train d'échapper sévèrement à Arsenal. C'est plate qu'on n'ait pas Thomas pour nous en parler. Sinon, Lionel Messi attire encore l'attention. Les autres ligues en Europe également. Bref, beaucoup de contenu pour vous dans cet épisode. On va commencer avec la Ligue des Champions, d'où premièrement, mardi, la nulle entre le Real Madrid et Manchester City. Le match était du côté de l'Espagne au Santiago Bernabéu. 1-1, donc. On a eu droit à deux buts, mais deux tabarouettes de buts, si je peux le dire ainsi. Vinicius Junior, autour de la 35e minute, quelque chose comme ça, va recevoir une passe de Camavinga. Très bonne percée de Camavinga. Passe de Vinicius. Prend un ou deux contrôles. Trouve un emplacement pour frapper. Et quelle frappe qui va battre Ederson. Ensuite, plus tard, dans les entours de la 60e minute, bonne construction de City. C'est Kevin De Bruyne qui va marquer tout un but également. Parle-moi de ce match-là, tes impressions. Je sais que toi, t'aimerais voir le Real passer. Bref, vas-y.
Ouais, écoute, quoi dire de ce match aller-là? Match aller qui était beaucoup moins spectaculaire que les deux confrontations de l'an dernier. Mais pour moi, tout ça intéressant, c'est pas plus, parce qu'avec les résultats, on a le droit à un match retour assez spectaculaire du côté de Manchester, à l'Etihad Stadium. Mais écoute, plusieurs choses à dire. Premièrement, du côté du Real Madrid, moi, je pense que le Real Madrid devrait manquer une belle occasion de tuer Manchester City dans cette rencontre-là. C'est fou qu'est-ce qui s'est passé là, après la première mi-temps. Manchester City on pensait que Manchester City avait le contrôle de la rencontre, avait beaucoup de possession de balle. Il y a eu un moment où il y avait plus de 118% de possession de balle du côté de Manchester City. Puis, ça a pris une occasion. Frappe, montée de Camavinga, passe à Vinicius. Vinicius frappe, bat Ederson. Qui était toute une frappe. Puis, juste comme ça, le Real Madrid menait 1-0 alors que c'était leur seul tir cadré de la première mi-temps. Et en fait, c'était littéralement leur seul tir au but dans cette première mi-temps. Écoute, par la suite, on voyait que plus les matchs avançaient, plus que le Real Madrid avait le dessus sur City, surtout sur le physique. Je trouvais que Manchester City, on dirait qu'il y avait eu un relâchement. Peut-être que c'est dû à ce trop grand effort qu'ils ont donné en première mi-temps, puis surtout aussi par ce but qui est venu un peu casser les reins des Citizens. Puis, dans un moment aussi de tempête du côté de Manchester City, les Citizens ont été capables de créer l'égalité, puis de sortir de Madrid avec un match nul, ce qui est pour moi quand même assez incroyable pour n'importe quel club quand tu te retrouves dans une double confrontation. En phase éliminatoire de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, puis tu réussis à ne pas perdre du côté de Santiago Bernabéu. Pour moi, c'est mission réussie. Donc, les Citizens qui m'ont vraiment déçu dans l'ensemble de leur jeu ont trouvé un moyen de ramener le nul puis d'aller à City avec d'aller du côté de Manchester avec une possibilité de gagner. Mais honnêtement, le jeu de City m'a vraiment déçu. Écoute, on va le mentionner un peu plus tard, mais quel travail d'Antonio Rudiger sur Erling Haaland. Il a été fantastique et il a contré physiquement. Erling Haaland a quand même deux petites occasions, mais t'es...
C'est pas les occasions qu'il y a d'habitude en PL, c'était des minces occasions.
Exactement. Anthony Rudiker qui est excellent. Puis, tu sais, Ali, il faut dire, Anthony Rudiker, normalement, n'aurait même pas été titulaire du côté du Real Madrid parce que c'est dans Militao qui joue à sa place. Puis Militao a été suspendu pour le match aller. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Carlo Ancelotti va faire. Est-ce qu'il va décider de garder la charnière David Alaba et Rudiger qui ont très bien performé face à Erling Haaland. Il va décider d'y aller peut-être avec Militao qui, depuis quelques temps, avait perdu un peu plus de sa forme en Ligue 1, mais qui est probablement le meilleur athlète des trois défenseurs du côté du Real Madrid. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Vinicius a encore joué un grand match. Puis, écoute, la frappe de Kevin De Bruyne là, est extraordinaire, extraordinaire. Pour vrai, c'est un beau but de la part de Kevin De Bruyne, le Belge. Mais moi, si j'ai une chose à retenir, c'est que le Real Madrid a vraiment raté une grosse occasion de tuer les Citizens, parce que je te dis, si c'était 2-0, cette confrontation-là était terminée, puis c'était le Real qui gagnait cette confrontation-là à coup sûr.
Mais quel... on va revenir là, sur le marquage d'Haaland, parce que j'ai des choses à dire aussi, mais quelle chance, entre autres, qui te vient en tête quand tu dis que le Real a raté ses occasions de Batiti?
Ben écoute, il y a eu probablement je pense que c'était la première frappe de Benzema, pas celle de la tête, là, mais...
Ouais, qui est allé au-dessus, là, ouais, quand ouais, il était décalé à droite, à gauche.
Celle-là, c'est ça, ouais, celle-là, c'était pas très intelligent, puis, ben c'est ça, vu que Karim n'était pas vraiment dans sa meilleure des formes, ouais. c'est là qu'on voit que, du côté du Real, ils auraient pu tuer, puis, écoute, ils ont eu des occasions, là, il y a eu deux grosses parades de la part d'Ederson,
Sur Tchouaméni.
Et également sur Benzema aussi sur la tête. Tu sais que c'est quand même une bonne parade de la part d'Anderson. D'habitude, moi je suis pas le plus grand fan d'Anderson, loin de là. D'habitude, j'aime ça un peu le ramasser, mais il a quand même fait des bons arrêts sur deux occasions franches du côté du Real Madrid. Donc, moi je pense juste que le Real Madrid aurait pu tuer ces Citizens qui paraissaient fatigués. Surtout, on va en parler, c'est sûr qu'on va en parler, mais le fait que Guardiola n'apporte aucun changement, je ne sais pas si c'est. Je sais pas s'il est un peu déstabilisé de ses décisions de l'an dernier, surtout au match retour à pareille date du côté de Madrid, mais le fait de ne pas avoir apporté des changements avec des joueurs comme Bernardo Silva qui était pas du tout dans son match, ou Grealish qui n'amenait pas grand-chose, puis peut-être embarquer un Riyad Mahrez ou un Phil Foden,
ou un Julian Alvarez
aussi, à la place de, ben, tu peux pas remplacer René Dalland, mais t'es...
Mais Alvarez peut jouer un peu en bas. Là.
C'est ça, à la place de Kundogan aussi, qui a eu vraiment un match difficile aussi. Donc, il y a eu des changements que, normalement, Guardiola aura apporté, mais que, je sais pas si c'est par crainte de changer le cours du match, il a décidé de ne pas apporter de changement pour garder son équipe jusqu'à la fin du match. Puis ça fait écouter le match nul à Manchester City.
Je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Tu sais, je pense que oui, je pense que le Real a eu de plus grosses occasions que City. Quand même, les deux équipes ont été capables d'être opportunistes. Et surtout, les deux défenses ont été capables de bien défendre les attaquants des deux équipes. On a parlé d'Alan, on a parlé de Benzema aussi, City l'a bien fait. Mais surtout sur Alan, tu as parlé de Rudiger, mais honnêtement, il y avait un triangle des Bermudes en tout temps sur Alan. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est le génie de Carlo Ancelotti. Tu avais Alaba, Rudiger et Kroos qui descendait un peu. Et à chaque fois que City avait le ballon, le triangle se formait. Alan, peu importe où il allait, il était entouré de trois joueurs. Et il n'a pas beaucoup touché le ballon. Il a eu deux petites occasions. Là, donc vraiment, ça a fonctionné du côté du Real en termes de défense. S'il continue à faire ça au match retour, ça pourrait très bien fonctionner à nouveau. Mais ouais, Julian Alvarez ou un Phil Foden pour un Jack Grealish, je suis d'accord avec toi, c'est l'avant-entrée en jeu. Foden, c'est le joueur d'avenir pour City, puis on ne le titularise plus maintenant du côté de Guardiola, on préfère Grealish. Grealish a une bonne saison quand même, il faut y donner. Là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une saison de la sorte, mais quand même, je ne comprends pas pourquoi tu ne donnes pas plus de temps d'utilisation à Foden, qui a quand même 10 buts en Premier League cette année, si je ne me trompe pas. Là. Fait que, tu sais, c'est ton joueur d'avenir, c'est un... OK, ça a bugué. Parfait. C'est un espoir du football anglais. Puis tu le fais autant pas jouer que ça me surprend. Même chose, Bernardo Silva, ailleurs, aurait dû changer, je suis d'accord avec toi, pour un Mahrez ou même un Alvarez qui aurait été capable d'être plus remuant. Je pense qu'avec les courses remuantes, le genre de joueur qu'Alvarez est, il aurait peut-être justement permis à Haaland de trouver plus d'espace. On l'a vu à la Coupe du Monde avec Messi, entre autres, le travail qu'Alvarez faisait a beaucoup bénéficié à Messi. Peut-être qu'il aurait pu faire ce genre de choses avec Haaland. Bref, c'est à voir, mais je suis d'accord avec toi pour les changements. Puis Carlo Ancelotti, je l'ai dit, le génie tactique, un entraîneur que j'adore de plus en plus. Avant qu'on passe à l'autre duel, il y a quelque chose qu'on s'est parlé entre nous. Le joueur du match qui est allé à Kevin De Bruyne, nous deux, on était d'accord que c'était plus... toi, tu parlais beaucoup de Camavinga. De mon côté, avec Vinicius et son but qui sortait un peu de nulle part, j'aurais tendance à le donner à lui. Mais explique-moi pourquoi Camavinga et pas Kevin De Bruyne.
Écoute, il y avait trois candidats pour moi, puis les trois étaient du côté du Real Madrid. Tu pouvais avoir soit Camavinga, soit Vinicius, soit Rudiger. Pour moi, ces trois-là méritaient l'homme du match. Puis Kevin De Bruyne, écoute, à part de son but extraordinaire, là, il n'a pas fait grand-chose dans cette rencontre-là pour vrai. Là, fait,
ouais, c'est, il a besoin de retrouver Haaland, justement. Là, parce qu'Haaland était autant bien marqué. Là.
C'est ça, exactement. Comme tu l'as parfaitement dit. Mais pourquoi Camavinga a eu un grand match? Bon, vous allez me parler de l'erreur juste avant le but de De Bruyne. Mais écoute, peut-être que le but de De Bruyne n'aurait pas compté si l'arbitre avait décidé d'aller voir la barre.
C'est vrai, il faut en parler, ça.
Déjà là, c'est assez controversé. Mais pourquoi Camavinga? Écoute, on parlait de pourquoi Bernardo Silva avait connu un match tout le temps difficile. C'est pas compliqué. C'est que Eduardo Camavinga l'a tellement bien couvert. Puis en plus, il le battait tout le temps de vitesse que ça faisait que le Real Madrid se retrouvait souvent avec Camavinga qui faisait des courses sur l'aide. Puis vu que déjà tu avais Walker qui était sur Vinicius, ça laissait tout le champ pour Eduardo Camavinga qui, il faut le rappeler aux gens, n'est pas un défenseur latéral gauche à la base. C'est un milieu de terrain. Que Carlos Ancelotti a décidé de le convertir en défenseur latéral parce que celui qui était là de base, Fernand Mendy, était blessé. Puis que là, en ce moment, je crois qu'il est encore blessé, je ne me trompe pas, mais juste par le fait qu'il n'est pas à sa position naturelle, puis qu'en plus, il a tellement fait un bon cadrage et marquage sur Bernardo Silva, qui est un grand joueur d'habitude, qui est d'habitude un joueur qui se présente à ces grands moments-là. Pour moi, Camavinga a eu un match quasi parfait. Si c'était pas l'erreur sur le but égalisateur de Bruyne, pour moi, c'était l'homme du match. Puis écoute, je pense pas être le seul à vraiment dire ça, là, que Eduardo Camavinga était bon autant défensivement qu'offensivement. Il a vraiment eu tout un match, surtout pour quelqu'un, comme je t'ai dit, qu'il jouait pas à sa position naturelle. Fait que c'est pour ça que je te donne.
Ouais, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Il a connu un fort match. Une pause décisive sur le but de Vinicius. Mais c'est ça, c'est le fait que pour moi, ça va plus à Vinicius qu'à lui, c'est justement l'erreur, que s'il ne fait pas cette erreur-là, ça reste peut-être 1-0 ce match-là. C'est, dans le fond, pour expliquer, c'est que il avait de l'espace, il avait le temps, il a fait une pause qui était très dangereuse, il faut dire, en milieu de terrain, à Rodrigo, je pense. Ouais. Rodri a bien joué, a foncé vers le ballon, a intercepté le ballon. Mais, tu sais, Camavinga avec... il est très jeune, là, ça va venir avec l'expérience, ce genre de choses-là, qu'il va apprendre que dans des moments importants de même, des passes dangereuses comme ça, c'est pas la chose à faire. T'sais. Il pouvait progresser sur son côté, aller chercher une option sur le côté moins dangereux. Mais je suis très d'accord avec toi. Là, à part ça, il a joué un excellent match. Et aussi sur le but, là, ce qu'il faut en parler, tu l'as mentionné tantôt, où est la VAR? On l'a revu après, le ballon était sorti. Où est la VAR pour manifester ça, pour nous dire, pour dire au public que le but n'était pas bon, pour dire à l'arbitre central aussi. C'est ça le rôle d'avoir, c'est pour ça qu'on l'a introduit dans le soccer. C'est pour justement que les petits détails comme ça, elle soit capable de les repérer. Puis là, elle ne le fait pas. C'est frustrant, honnêtement.
C'est bizarre. À Madrid, là. Ouais, puis pas juste ça aussi. L'arbitrage, c'est quand même assez questionnable là, dans cette rencontre-là parce que je ne sais même pas comment Dani Carvajal n'a pas réussi à obtenir un carton jaune sur son nombre de mauvais jeux sur Grealish, puis sur, je ne me rappelle c'était qui l'autre, je ne sais pas si c'était Rodri ou De Bruyne, mais bref, Dani Carvajal aurait pu sortir de cette rencontre-là avec un carton rouge en première mi-temps, puis il y a eu genre 6-7 fautes faciles qui ont été appelées contre Dani Carvajal après la première mi-temps, puis pas de carton. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez particulier du côté de l'arbitre, puis comme tu l'as mentionné, la VAR, man, sur la sortie de balle de Bernardo Silva, juste ça, là. Juste ça, c'est quand même assez particulier. Puis c'est peut-être ça qui va sauver les citizens, c'est sûr.
C'est très possible. Voilà, prochain match à l'Etihad Stadium du côté de City. Très hâte de voir ce match-là. Je pense que ça pourrait être un match très spectaculaire. On a eu du spectacle, mais peut-être pas autant qu'on aurait voulu dans le match aller. Fait que j'espère beaucoup de buts. Tout le monde qui se démarque offensivement dans le prochain match, ce serait très intéressant de voir.
Attends, fait intéressant aussi. Ça, je voulais l'apporter exprès pour l'épisode. Faut le mentionner que Manchester City n'a pas perdu de match à domicile en phase éliminatoire en Ligue des Champions depuis 2018. Tu sais, c'était quand la dernière fois qu'ils ont perdu? C'était au match retour contre Liverpool. C'est la dernière fois que Manchester City a perdu un match en phase éliminatoire à l'Etihad Stadium. Donc, est-ce que le Real Madrid va être capable de remporter ce match-là? Puis encore une fois, ce qu'elle fait à la finale de Ligue des Champions, ça va être très compliqué à savoir. C'est sûr que pour moi, grâce au match nul, je pense que City reste encore favori pour remporter cette double confrontation-là.
Fait que la dernière fois qu'ils avaient perdu, c'est contre Liverpool en 2018. Mm-hmm. L'année où Liverpool s'était rendu en finale contre le...
Real Madrid,
et voilà. Tout est dans tout, bref. Donc, l'autre match de Ligue des Champions qui a été assez intéressant également, c'était le derby milanais dans l'autre demi-finale. Donc, l'AC Milan contre Inter Milan, ça c'était hier mercredi. Victoire de l'Inter Milan 2-0, même si l'AC Milan était considéré comme à domicile, je pense. Même si les deux matchs vont être à San Siro, c'est ça qui est fou de cette confrontation-là. Ouais, les deux équipes jouent dans le même stade, donc l'ambiance... C'est absolument fou. Cette ambiance-là. Écoute, t'as les deux équipes qui jouent dans le même stade, qui se rencontrent en Ligue des Champions, de la même ville. C'est absolument fantastique comme scénario. Et même si le Milan était à domicile, c'est l'Inter qui est parti en force. La défensive de l'AC Milan était horrible. C'était horrible. Mike Maignan a fait de gros arrêts qui auraient pu finir 5-0, 6-0 ce match-là si ce n'était pas de Mike Maignan. Là, AC Milan est encore dans la course là, vu qu'il y a juste eu deux buts. Mais c'était horrible, cette défense milanaise, honnêtement. C'était triste à voir. En attaque, ça a été un peu mieux, mais clairement, on manquait un Rafael Leão là, qui est blessé parce que Olivier Giroud n'a presque pas eu de ballon. Les ballons qui sont amenés souvent par Leão. Fait que, bref, écoute, c'est Mkhitaryan qui a marqué le deuxième but. Le premier, c'est Edin Dzeko, tout un but de Dzeko, qui font en sorte que l'Inter est devant 2-0 en ce moment. Moi, je trouve que l'AC Milan est une meilleure équipe, mais là, avec la défense complètement horrible qu'on a vue hier et le fait que Leão n'était pas là, je dois dire que l'Inter est la meilleure équipe présentement. Fait que tes impressions sur ce match-là?
Écoute, premièrement, l'ambiance extraordinaire au San Siro. Moi, je revenais pas quand je voyais ça. J'étais comme, voyons donc, c'est que genre, ça paraissait que les gens à Milan attendaient un match de Ligue des Champions, surtout dans un gros match de Ligue des Champions. Parce que la dernière fois que c'était affronté, c'était en 2005, là, ces deux équipes-là en Ligue des Champions. Puis, il faut se rappeler qu'en 2005, l'Inter et l'AC Milan étaient parmi les plus grands clubs au monde. Ils avaient deux forteresses dans le même stade. Fait que ça, c'était assez incroyable. Puis, hier, c'était une ambiance de fou. Mais écoute, comme tu as mentionné, écoute, ça a pris 3 minutes, puis le match était terminé. Là. C'était pas compliqué, là. Dzeko, moi, c'est un joueur que j'admets depuis longtemps. Depuis Manchester City et également avec l'AS Roma, qui, encore une fois, je crois qu'il est grandi à 36-37 ans.
C'est fou.
Et encore une fois, il est performant, il a marqué un gros but avec des champions. Puis un autre vétéran aussi, Henrik Mkhitaryan aussi, qui lui aussi il est à peine plus jeune que Dzeko.
Je ne sais pas comment il fait pour être encore à ce niveau-là, Mkhitaryan. Moi, après qu'il soit parti de Man U, j'ai comme un peu oublié. Il est allé à Rome, entre autres, lui aussi, mais qu'il revient et qu'il marque un gros but en Ligue des Champions avec l'Inter, ça me surprend.
Oui, c'est ça. Fait que déjà là, c'était deux excellents buts de la part de deux vétérans qu'on s'entendait s'entendait plus ou moins à voir dans cette rencontre-là. Mais écoute, domination totale de la part des intéristes. Défensivement, comme tu l'as mentionné, c'était horrible. Tomori puis Simon Kjær, parce que bref, le Danois, les deux ont été mauvais selon moi dans cette rencontre-là. Si c'était pas du plongeon de comment il s'appelle, de Lorenzo Martinez,
Lautaro.
Lautaro Martinez, merci. Lautaro Martinez, c'était pas. C'était peut-être 3-0. Puis encore une fois, Dzeko aussi a raté une autre grosse occasion. Il était complètement.
Mike Maignan a fait des arrêts incroyables.
Mike Maignan, c'est pour moi, là, honnêtement, là, si c'était pas Thibaut Courtois, là, il est peut-être dans ma gardien de but au monde, à mon avis. Mais ça, c'est
autre chose. J'ai presque envie de dire que dans sa forme actuelle, c'est le meilleur. Là, mais c'est vrai que Thibaut Courtois est dans la conversation. Là.
C'est ça.
Mais c'est fou, ce gars-là. Dans les dernières semaines, moi, qu'est-ce qu'il fait? Là.
C'est ça. Puis écoute, tu l'as pas fait mentionner. Déjà que Raphaël Léao n'est pas là. Ça, là, ça vient retirer presque la. Ça retire presque la créativité offensive de la part de la similaire. Puis en plus. Puis en plus, c'est un Bennacer qui quitte après, genre, je pense, même pas 20 minutes de jeu, qui quitte sur blessure. Ça aussi, ça fait de mal pour l'interminable. Mais écoute, c'était triste à voir les Milanais que moi aussi, je pensais. Non, moi, je pensais pas que t'étais favori. Moi, j'avais pris l'Inter parce que quand on a su que Léao était blessé, je me suis dit, c'est les Milanais, qu'est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir pallier cette absence-là? Moi, je doutais beaucoup. Puis écoute, ça a apparu hier soir dans cette rencontre-là. Ils ont eu une bonne occasion qui ont frappé le poteau sur une frappe de Tonali. Mais à part de
c'est
ça.
C'était un peu mieux aussi. Là, c'est qui a eu une chance? J'ai oublié, mais tu sais, ils ont eu quelques occasions en deuxième demi. Mais c'est rien. En fait, je pense qu'ils ont eu un seul tir cadré. Là. Fait qu'ils ont eu ce tir cadré-là, puis le poteau de Tonali, puis c'est tout. Là. Fait que c'est. Honnêtement, il va vraiment, vraiment falloir faire mieux, de beaucoup, beaucoup mieux pour revenir dans le prochain match.
Mais c'est ça, c'est fou, qu'on parle de la grosse domination de l'Inter Milan, mais reste que le score est quand même 2-0. Là, fait que, tout est encore possible pour le match retour, puis en plus qu'ils jouent dans le même stade, il n'y a pas de facteur de jouer à l'extérieur qui s'applique pour ces confrontations-là. Donc, ces jeux-là, moi, je trouve que la Milan, ça sort très bien pour la pauvre performance qu'ils ont donnée sur le terrain. Donc, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer sur le match retour. Moi, je trouve que Dumfries aussi a joué un excellent match du côté de l'Inter Milan. Je trouvais qu'il était partout, surtout en première demi. Dumfries, qui est un joueur que j'adore beaucoup des Pays-Bas. Donc, c'était très bon. Puis,
tu parles de Dumfries qui a joué un bon match. On a parlé de Dzeko et de Mkhitaryan qui ont connu de bons matchs. Di Marco, du côté de l'Inter, a connu un bon match. Çalhanoğlu a touché une barre transversale sur tout un tir. Une passe décisive aussi. Lautaro Martinez a récupéré extrêmement beaucoup de ballons. A joué un bon match, même s'il n'a pas marqué. Et quand je regarde ça, là, la profondeur du côté de l'Inter Milan est beaucoup mieux que celle de l'AC Milan. Tu sais. On a rentré Junior Messias, qui n'a pas été bon, il faut se dire. Malik Tia, que je connais à peine, honnêtement. Origi, Kalulu, Pobega. C'est pas de la grosse profondeur. Quand tu regardes de l'autre côté, on a Joaquin Correa, Romelu Lukaku, qui n'était même pas titulaire. Brozovic, qui était sur le banc. Ouais. De Vrij, bref. On a beaucoup plus de profondeur du côté de l'Inter sur le banc. Ça, c'est un aspect qui les avantage grandement. Puis si Raphaël Léao ne revient pas la semaine prochaine, je vois pas comment Milan va pouvoir remonter, surtout en jouant de l'Arsenal.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Hâte de voir si Léao va être là au match retour. Mais s'il n'est pas là, oublie ça, c'est mort. Là. C'est pas compliqué. Là. On a bien vu que Cassian Léao, ils ont presque aucune créativité offensive. C'est un peu comme. C'est un peu, on peut en parler aussi, là, faire un petit parallèle, là, mais dans la confrontation de l'AC contre Naples en quart de finale, déjà que Naples n'avait pas si mal au match aller, ça fait toute une différence. Fait que, tu vois, c'est la même chose du côté de l'AC Milan avec Léao qui n'est pas là. Donc, match très difficile pour l'AC Milan, mais. Tout est possible au match retour. Ils ont juste un déficit de 2 buts. Donc, si un bon début de match, ils pourraient se sortir. Parce que c'était ça l'avantage pour l'AC Milan, c'est qu'ils ont marqué très tôt dans la rencontre, 2 buts en 3 minutes, puis voilà, c'est fini. Ça a juste pris ça.
Exactement. Puis voilà. Donc, la bonne nouvelle, comme tu l'as dit pour eux, c'est que c'est seulement un déficit de 2-0. Et c'est ça. Ils doivent jouer beaucoup mieux, comme je l'ai dit, au prochain match pour pouvoir espérer une remontée. Et trouver, mieux défendre, ça c'est sûr et certain, mais en attaque, essayer de trouver une solution pour amener des ballons à Olivier Giroud, là, parce qu'il est un bon finisseur, Giroud, mais il faut que tu lui donnes le ballon parce que c'est ça. Fait que, bref, à suivre également la semaine prochaine ce match-là avec impatience. On se tourne maintenant en Amérique du Nord, notre bon vieux patelin, le CF Montréal, qui commençait sa saison horriblement, comme la défense du AC Milan. Et ben là, ça va tellement mieux. Je m'attendais pas à ce revirement de situation-là. Mais on est à quoi? 5 ou 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues?
Je pense que le CF est rendu à 5.
Oui, c'est ça. Deux en championnat canadien, 3 en MLS, je pense que tu as raison.
Yes.
Oui, exact. Je pense que c'est ça. Parce qu'ils sont 4-6 en MLS, si je ne me trompe pas. Fait que, écoute, c'est... Surtout qu'on a, à part contre Toronto dans le dernier match, on avait presque encaissé aucun but dans cette séquence de victoire-là. Le style de jeu de Losada commence à être beaucoup plus clair. Les joueurs semblent avoir compris le plan de match, la tactique. On a des joueurs qui reviennent de blessures et qui font beaucoup de bien. Je pense à Romel Kyoto, entre autres.
Ouais.
Mathieu Choignard dans l'axe, c'est très bon. Écoute, Chinonzo Afor a marqué, même si continue d'être
c'est difficile.
Ouais, c'est ça. Techniquement, il n'est pas à l'aise du tout. Là. Il n'est pas bon, techniquement, on va se dire. Là. C'est un excellent joueur de tête. C'est à peu près ça, tant qu'à moi. Mais j'écoutais le podcast Loin de s'en foutre tantôt. Mm-hmm. C'est Sidney Faux qui en parlait que Chinonzo Afor était capable de déplacer de l'air. Ouais. Et d'amener des défenseurs avec lui. Peut-être un peu, tu sais, peut-être que ça l'aide un peu. Je pense que si on avait un autre attaquant dans l'effectif qui pourrait prendre sa place, ça serait. Je pense que j'aime. Ben, Sounouzi Ibrahim, c'est parce qu'il n'est pas constant, mais bref, je prendrais quelqu'un d'autre que lui dans l'effectif, ça c'est sûr. Mais bref, Choignard va bien, Waterman va bien, Jonathan Sirois va très bien, Camacho a retrouvé un peu ses airs de l'an dernier. Donc, tu sais, ça va bien du côté du CF. Wanyama est solide. Puis on a encore Samuel Piette qui n'est pas de retour au jeu. Mm-hmm. Fait, bref, ça va vraiment dans la bonne direction. Et je ne m'attendais pas à ça du côté du CF Montréal, si tu veux en parler.
Ben écoute, moi, je pense que le retour à domicile a fait du bien là, au CF Montréal.
C'est vrai.
Comment ça, etc. C'est jamais l'idéal pour n'importe quelle équipe à MLS. Puis malheureusement, c'est le cas du CF. Chaque année, on le sait, dû à la saison hivernale. Au Québec, donc il y a pas mal de neige quand ça commence à MLS.
Mm-hmm.
Puis déjà ça fait du bien au CF. Écoute, on va se dire, mais pour l'instant, Olivier Renard fait de l'excellent travail en distance chez Bryce Doug. Juste ça, là.
C'est vrai, Bryce
Doug, juste la ça, là, ça, même ça, la ça, 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 a changé, ça a changé ouais. toute, ça a changé toute l'attaque du CF. Même Alistair, comme tu mentionnais, Alistair aussi qui va quand même très bien.
Lassiter, pardon.
Pourquoi j'ai dit Alistair?
T'as dit Alistair parce que ça te ramène des souvenirs de.
Parce que j'aimerais ça qu'il revienne. Malgré qu'on va parler, mais Herrera va quand même très bien,
oui,
surtout dans les matchs.
C'est centre, là. Ouais, vraiment.
Ses centres sont de mieux en mieux. Ouais. Et même si je crois que ça a été considéré comme un but contre son camp dans le dernier match à MLS contre Orlando, merci. Même ça, c'est quand même lui qui est à l'origine de ce but-là. Donc, c'est... Écoute, ça va parfaitement bien. On dirait que tout commence à cliquer tranquillement du côté de Saint-Montréal. Bon, ils se retrouvent quand même pas si pire. Ils sont comme à 2 points, je pense, 2 ou 3 points d'une place à serrer. Donc, tout va pour le mieux du côté de Montréal. Puis, écoute, le retour de Romel Kyoto arrive au bon moment. Puis... moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Piette. Dès que la même Piette va revenir, là, peut-être que le CF va commencer à redevenir normalement. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements à apporter du côté de CF parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc, si un Bryce Duke se blesse, Romain Kyoto se blesse ou Wanyama se blesse, ils sont quasi foutus, le CF. Là, donc, il va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, mais clairement que pour l'instant, tout va pour le mieux pour le CF.
Oui, exact. Puis comme tu as dit, on n'espère pas d'autres blessés. Puis j'aimais bien Cameron Miller la saison dernière, on va se le dire. Mais à date, l'échange de Renard est un très bon échange, comme tu l'as dit. Bryce Duke dynamise l'offensive. Lassiter, sur le côté gauche, je le prends n'importe quand avant Lassie Lapalainen, même si c'est pour être en rôle de piston. Là. Ouais. Écoute, Lassie Lapalainen, c'est des hauts et des bas depuis qu'il était à Montréal, mais surtout des bas, là. Et on va se le dire, là. Puis,
je dis rien sur ce mec-là. Je dis rien. Pour mon bien, je dis rien.
D'accord. Mais voilà, écoute, là, il faut le donner. Très bon échange de Renard. Même si encore, je le reproche que j'aurais aimé des additions à date limite des transactions au lieu de perdre de Miller. Oui, on a reçu un bon retour en échange, mais bref, ça va bien pour le CF. On se rapproche d'une place en série et c'est tant mieux. Puis c'est le fun à voir, honnêtement. Je pensais que cette saison était perdue. Maintenant, Toronto FC, hein, cette semaine, il y a deux matchs contre le Toronto FC. Il y en a un qui est déjà joué en championnat canadien. Victoire du CF Montréal au BMO Field à Toronto. Yes. Dans une grosse ambiance, on sait ce que ça représente, le CF Montréal contre le Toronto FC. Avec des Bernardeschi, des Insigné, mais l'attaque torontoise qui ne fonctionne pas encore cette saison. Ils sont dans les bas-fonds de la MLS. Ouais. Et le CF qui va chercher cette victoire-là là, avec... avec c'est Chinonzo, puis qui est l'autre marqueur déjà? J'ai oublié.
C'était Broguillard, non?
Broguillard, t'as raison, oui. Ouais. Sur un coup franc complètement raté de Bernardeschi. Mm-hmm. Sean Ria qui récupère le ballon. Une spot de fou par-dessus tout le monde. Ensuite, il y a Kyoto. Il y a Camacho qui essaie de prendre le retour. Ça ne marche pas. Et finalement, la troisième fois est la bonne avec ZBG. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est ça. C'était tout un match. Et ce qu'il faut parler aussi, c'est non seulement le prochain match qui va être au Stade Saputo en MLS, mais aussi l'incident qui s'est passé dans les tribunes. Les partisans torontois qui ont tabassé littéralement les partisans du CF. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire là-dessus. Là.
Moi, je trouve ça absolument honteux. Genre, comme le soccer, moi, à la base, je trouve que le soccer, ce n'est pas un sport qui rassemble, c'est un sport qui divise. Puis écoute, on le voyait. Bon, nous autres, on est beaucoup trop jeunes pour pas avoir vécu ça, mais tu sais, il y a eu une époque où, quand en Angleterre, il y avait les hooligans, puis qu'en Italie aussi, ça s'embrassait aussi, puis que, tu vois, il y a eu des morts, là, tu sais, t'as des
émeutes, puis des discours. La tragédie d'Edelsbro.
Même du côté de Turin aussi, il y a du monde qui a décidé de ça, il y a du monde un peu partout qui sont en Europe qui sont morts de ça, puis tu sais, je pensais qu'avec cet temps-là, qu'on a appris que. À un moment donné, c'est pas parce que vous êtes partisans de deux équipes différentes que vous êtes obligé de vous battre. C'est pas vous qui sont sur le terrain, c'est les joueurs. Puis moi, je me dis toujours ça, je me dis, écoute, si les joueurs des équipes adverses ne se battent pas entre eux, pourquoi nous, les partisans de différentes équipes, on irait au coup contre des partisans de l'autre bord? C'est comme, pour moi, c'est logique. Là, t'es considéré comme le deuxième homme, puis oui, on peut dire techniquement, entre guillemets, genre pas le bien des partisans, on va dire que. T'es membre d'un club, mais ça reste que t'es pas un membre du staff, t'es pas un joueur, fait que t'as pas besoin de te battre. Puis écoute, le CF a pris la bonne décision en barrant la porte aux partisans du Toronto FC. Moi, je suis jamais pour ça. Moi, je pense que tout le monde doit venir au stade, peu importe tu joues pour qui. Mais écoute, de là venir au point, c'est tout honteux.
Mais enfin, l'alcool, je pense, a eu... L'alcool et la défaite là, sont un peu les raisons, j'imagine, de ces incidents-là. Mais j'ai vu des partisans à Montréal blâmer la sécurité à Toronto, puis j'ai pas le choix d'être un peu d'accord avec eux. Tu n'es pas censé permettre ça. Il est censé avoir de la sécurité dans la section des partisans adverses pour justement éviter ce genre de choses-là. Je ne sais pas s'il y en avait, mais en tout cas, elle n'a pas fonctionné ou elle n'a pas fait son travail parce qu'il y a eu ce qui est arrivé. Puis après ça, la décision du CF de ne pas accepter les partisans étrangers pour le prochain match, ben écoute, c'est complètement compréhensible après ce qui s'est passé. Puis c'est surtout que le match est dans la même semaine. Là. Fait que c'est tout simplement la bonne décision, même si c'est dommage pour les partisans torontois. Dans le meilleur des mondes, on accepterait les partisans de toutes les équipes, on leur ferait une belle section dans le Stade Saputo juste pour eux. Mais là, quand il y a des incidents comme ça qui se passent, pas le choix, là. C'est pas contre le Toronto FC, c'est vos partisans qui ont battu les nôtres. C'est juste pour la sécurité de tout le monde qu'on fait ça. Donc voilà. Oui, tu voulais dire?
Non, moi je suis juste à prouver ce que tu dis.
Bon, ben, je suis très content qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus. Je pense pas qu'il y a d'autres vraiment opinions là-dessus. Là. C'est assez logique. Fait que voilà. Le CF, donc on suit ça samedi prochain, comme j'ai dit, au stade Saputo. CF Montréal, Toronto FC, un autre gros match qui s'en vient. Pourquoi pas le CF faire 2-2 contre son ennemi juré, le TFC. Et voilà, c'est ce qui conclut le segment CF Montréal. Maintenant, on va parler, avant d'aller dans les ligues d'Europe, on va parler de Lionel Messi, ouais. Qui est encore au cœur de l'actualité, encore. Et bon, il a été suspendu pour son voyage en Arabie Saoudite, qui a manqué un entraînement. Bref, lui s'est expliqué, il a dit qu'il n'était pas au courant, que l'entraînement a été ajouté au dernier moment et que lui, il était toutes ses démarches pour partir étaient déjà faites. Et là, il a été suspendu par le club. Il a seulement raté un match. Sa suspension a été levée. Et là, il y a des tractations comme quoi il irait jouer en Arabie Saoudite. C'était peut-être les raisons de son voyage. Il y a une rencontre avec Jordi Alba et Busquets. Busquets qui va quitter Barcelone, l'a annoncé. Bref, les trois pourraient se retrouver à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le club adverse de Al-Nassr, dans lequel Ronaldo joue. Bref, toute une histoire, celle-ci, de Lionel Messi. Je te laisse aller là-dessus.
Écoute, moi je ne vais pas mâcher mes mots, puis je pense que c'est important de préciser. L'expérience Lionel Messi au PSG est un échec total. C'est pas compliqué, c'est total. Écoute, Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone en 2021 après je pense que c'est plus de 17 ans du côté de FC Barcelone. Une carrière remarquable, meilleur joueur de l'histoire de ce club-là. Peut-être pour plusieurs, meilleur joueur de l'histoire du football. Puis tu te retrouves au Paris Saint-Germain. Donc, déjà là, tu te dis, yo, t'as un joueur d'attrape de Lionel Messi qui décide de venir dans ton club. Déjà là, ça arrive presque jamais, peu importe des équipes. Puis, il arrive là-bas, c'est difficile pour lui de s'acclimater au jeu du Paris Saint-Germain. Là, t'as un Neymar qui joue pas souvent aussi, qui a beaucoup ralenti. T'as Kylian Mbappé qui. Le PSG a presque tout donné pour décider de le garder. Ouais. Puis, oui, performe avec le PSG, mais même cette année, quand il a raté le match aller, parce qu'il a raté une grosse partie du match aller de 8e de finale contre le Bayern, puis il n'a pas été autant performant que lors de la Coupe du Monde. Puis, écoute, c'est malgré qu'il y a une saison qui est nettement supérieure à sa première saison, mais ça, au PSG Saint-Germain, c'est un échec monumental. Puis, c'est un fiasco que j'ai l'impression que tu vois juste ça au PSG Saint-Germain. T'aurais jamais vu ça au FC Barcelone, de voir Messi partir ailleurs, puis après ça, revenir, puis dire « Ah, je savais pas qu'il y avait un entraînement. » Non, je suis pas mal certain que Messi savait qu'il y avait un entraînement. C'est juste qu'à un moment donné, c'est juste qu'il est tanné de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. On s'attend pour dire que le Paris Saint-Germain, cette saison, c'est très difficile pour eux, malgré son premier de Ligue 1. C'est pas compliqué. Là. Ils ont besoin d'un vrai entraîneur. Il y avait des rumeurs qui disaient que José Mourinho allait... José Mourinho pourrait peut-être s'amener du côté du Paris Saint-Germain. Bon, comme tu m'as mentionné, Ali, juste avant l'épisode, puis je suis allé vérifier, puis c'est vrai. José Mourinho a confirmé que le Paris Saint-Germain ne lui avait pas parlé. Il n'y a pas eu de discussion entre les deux clans, donc pour l'instant.
Mais ça, c'est ce que Mourinho dit. Là. Écoute,
pour l'instant, c'est ça. Je pense que, même là, je ne suis pas certain qu'il cacherait ça parce que quand même.
Mais il pourrait attendre la fin de la saison avant de le confirmer.
C'est vrai. Mais écoute, si c'est un entraîneur de la trame de José Mourinho qui vient au Paris Saint-Germain, ça changerait tout là-bas. Ça changerait tout. Putain, on connaît José Mourinho avec sa mentalité puis sa façon d'entraîner. Il va juste complètement changer l'atmosphère du côté du Paris Saint-Germain. Puis, bon, les partisans du Paris Saint-Germain, ils me font rire un peu parce que je trouve ça honteux qu'ils décident d'aller, par exemple, au domicile de Neymar puis commencer à les crier après, jeux. Mais tu en même temps, avec la saison qu'ils ont, avec la saison que Neymar a eue, parce que Neymar, cette saison, si tu compares la Coupe du Monde de Messi et Neymar avec la saison Paris Saint-Germain, c'est deux mondes complètement différents. Ça, c'est quelque chose que même moi,
tout ce qui était moi, avant la Coupe du Monde, Messi et Neymar allaient très bien.
C'est ça. Ils allaient très bien, mais. Il y a des affaires, c'est normal, c'est une saison assez particulière aussi avec, comme tu as mentionné, une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, ça arrive rarement, voire jamais, donc c'est quand même assez particulier, mais PSG, c'est juste un fiasco, là, c'est juste un fiasco total, puis ils ont besoin d'un entraîneur comme José Mourinho qui va venir changer juste l'attitude générale dans cette équipe-là. Ils ont besoin pour vrai que la direction soit un petit peu plus sérieuse dans leurs ambitions et tout, parce que l'ambition de base des Qataris, c'était de gagner des champions. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils s'éloignent de plus en plus de cet objectif-là. Oui, ils vont chercher des joueurs vedettes, mais ce n'est pas des joueurs vedettes qui te font gagner la Ligue des Champions. Si tu regardes le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en ce moment, franchement, Lille, tu regardes le milieu de terrain du Paris Saint-Germain en ce moment.
C'est affreux. C'est Fabien Ruiz, Carlos Soler, what the fuck?
C'est ça, exactement.
C'est pas de bon sens. Marco Verratti qui est potable. Potable, c'est comme...
Quand il joue un match sur six, puis des fois, quand il joue le match sur six, des fois, il n'est pas à 100%. Mais c'est un joueur qui est balle au pied, est incroyable.
Vitinha va mieux.
Vitinha n'est pas sûr d'être tout là au Paris Saint-Germain, ça n'a pas de sens.
Je suis d'accord avec toi.
T'as un gardien de but à Donnarumma, que t'as un gardien de but numéro 1 parfait, puis t'avais un gardien numéro 2 à Carlos...
C'est correct, tu es parti, il n'y avait pas de temps de jeu.
C'est ça.
Il va peut-être sauver la saison de Nottingham.
T'as une défense qui est quand même bonne. T'as une attaque de feu. Puis là, il te reste le plus important. Il te reste ton milieu de terrain. Si tu regardes toutes les... Qu'est-ce qui a coulé Liverpool cette saison? C'est le milieu de terrain. Qu'est-ce qui coule Chelsea en ce moment? C'est le milieu de terrain aussi.
Et l'attaque, là, beaucoup.
Et l'attaque aussi. Mais
le milieu, je trouve, n'est pas si pire comparé à l'attaque du côté de Chelsea. Là.
Oui, mais quand même. D'habitude, quand t'as pas un milieu de terrain, ça finit par faire couler ton équipe. Puis malheureusement, c'est ça qui arrive. Si tu regardes des gros clubs là, cette saison en Ligue des Champions, le Real Madrid, ils ont un milieu extraordinaire. Manchester City, milieu de terrain extraordinaire. Même, on venait de mentionner, l'Inter de Milan ont un excellent milieu. Donc, c'est juste ce PSG-là, juste un fiasco sous toute la ligne. Puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que cet été, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps la même disque qui continue, puis qui ne s'arrête pas. Écoute, il va y avoir des sérieuses remises en question à faire du côté du Paris Saint-Germain.
Écoute, j'aime bien tout ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais revenir dans ce que tu as dit. Premièrement, tu as dit Liverpool qui coule. Ils sont en train de remonter à la surface pas mal là, dans les dernières semaines. Ils sont même proches de la Ligue des Champions, ce qu'on ne pensait pas il y a plusieurs semaines, voire mois. Mais bref, là n'est pas le point. PSG, fiasco sur toute la ligne. Très d'accord avec toi. Je pense que ça fait des années que, tu sais, Nasser El Khelaifi, là, honnêtement, je connais pas tout ce qu'il fait dans les coulisses, mais de ce que j'entends, de ce que je lis, il y a peu de positifs là-dedans. Malheureusement, tu peux pas le tasser vraiment, ce gars-là. Christophe Galtier ne fait pas le travail, ça, je suis très d'accord. José Mourinho pourrait apporter beaucoup de bien à l'effectif, mais aussi, là, il faut faire les bonnes dépenses aux bons endroits. Tu as parlé du milieu de terrain. Je suis extrêmement d'accord avec toi que c'est tellement en deçà de l'attaque et de la défense du côté du PSG. Le seul bon milieu de terrain qu'il y a dans cet effectif-là, c'est Danilo Pereira, puis il joue en défense centrale. Fait que voilà. Et fait que le PSG fiasco sur toute la ligne. Les partisans, je suis désolé, aller être une centaine de personnes à aller devant la maison d'un joueur qui est blessé depuis 2 mois. Le gars ne joue même pas, là.
Non.
À qui tu t'attaques et tu penses que ça va faire quoi, honnêtement? Genre,
ça ne changera pas grand-chose.
On est des passionnés là, à Montréal, avec le Canadien de Montréal aussi. Là. On est des passionnés autant que les fans du PSG, là, presque. Donc, est-ce qu'on, nous autres, on va, on trouve l'adresse de Joël Armia, puis on s'en va crier et tout devant sa maison? Ben non, on ne fait pas ça. Ça ne donne absolument rien. Déjà qu'il y a les médias pour chialer sur les joueurs. Déjà qu'il y a les réseaux sociaux, je vois, ça te fait rire, l'exemple de Joël Armia.
Ah, Joël Armia, man! Waouh! Je m'attendais pas à ça, man! Mais c'est pas le cas de ça, quand c'est fort.
Joël Armia, Mike Hoffman, bref. Tu sais, où en étais-je? Nous, on fait pas ça ici à Montréal. Puis déjà que c'est ça, il y a les médias pour chialer contre les joueurs, il y a les réseaux sociaux où c'est juste ça, du bashing contre les différents joueurs. Ça donne absolument rien. Si tu veux être méchant, va être méchant sur les réseaux sociaux, que ça va, à moins qu'il voit le message, là, mais ça m'étonnerait que Neymar lise tout ce qui se dit à propos de lui. Là. Ça sert complètement à rien. Puis le PSG comprenant la direction et ses partisans qui sont toxiques, à mon avis, là, ben pas tous les partisans, je ne vais pas les généraliser, mais en tout cas, une certaine partie qui sont allés devant chez Neymar. Puis aussi l'affaire de huer Lionel Messi. Je comprends qu'il n'est pas attaché au maillot comme les partisans du PSG le devraient, mais encore une fois, à quoi ça sert? Le gars, en championnat, est le deuxième meilleur en termes de statistiques. Il y a 15 buts, 15 passes décisives. C'est meilleur qu'Mbappé. il y a seulement Erling Haaland qui fait mieux cette saison. Puis pourtant, on chiale Lionel Messi comme s'il était à fond au PSG. Il a la deuxième meilleure fiche en termes de buts et passes décisives dans le championnat sur tous les joueurs en Europe. Et ça, on l'oublie, là, tant qu'à moi. Il n'y a personne qui en parle. Et on eut Lionel Messi qui, OK, il ne se donne pas comme peut-être il se donnait à Barcelone. Il ne porte pas le maillot, il n'y a pas le même attachement. Je comprends tout ça. Mais de le huer alors que ses performances sur le terrain sont vraiment pas si mauvaises, sont même bonnes. Tu sais, tu dis, Messi, c'est un échec sur toute la ligne au PSG. Sur toute la ligne, sauf sur le terrain cette année. Sur le terrain cette année, il est bon, il faut le donner, les stats sont là.
Mais pas en Ligue des Champions, par contre.
Pas en Ligue des Champions, OK.
C'est ça l'affaire.
Mais
c'est ça l'affaire.
Est-ce que bon, peu importe, là, avec Liverpool. Bon, huer sur le terrain, je trouve peut-être que c'est plus acceptable qu'aller devant chez un joueur. Mais gros, je pense que, écoute, c'est fini, là, le PSG. Messi, et c'est sûr qu'il n'est pas bien au PSG, les partisans ne le veulent plus. Il s'en va, c'est parfait pour moi. Puis écoute, j'ai de la misère avec l'organisation du PSG et ses partisans toxiques, mais bref, voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Là,
la seule fois que je voulais rajouter, c'est que je trouve ça dommage qu'est-ce qui se passe pour Paris Saint-Germain depuis le début, parce que quand tu regardes le plan des Qataris à la base, écoute, c'était de faire rayonner la ville de Paris, de faire rayonner cette équipe-là. Puis dans cette équipe-là, à l'objectif final qui était de remporter avec des champions. Ils ont été chercher des joueurs qui, à l'époque, marchaient parfaitement avec cette mentalité-là. Tu vois, t'avais des joueurs comme Javier Pastore, qui était quand même une grosse transaction à l'époque, qui plus ou moins fonctionnait, mais était un joueur que moi j'admirais beaucoup. T'es allé chercher Zlatan Ibrahimovic, qui, malgré on connaît le personnage, qui est quand même très polarisant, mais qui a une éthique de travail incroyable, puis que il n'y avait pas de controverse sur le terrain, ouais. Il y avait beaucoup de controverses hors terrain, mais c'est juste parce que c'est Zlatan et sa personnalité, puis il faut que tu l'acceptes comme il est. C'est comme ça. Mais au niveau de...
Juste avant que tu continues, au niveau de la controverse justement que tu parlais, c'était bien mieux à l'époque de Zlatan que maintenant. Maintenant, tu entends juste ça, des controverses entourant le PSG. Là. Mais vas-y, continue.
C'est ça. Te mettre sur le terrain, il y avait un travail et tout. Tu as cherché des joueurs comme Thiago Motta. Thiago Silva. Mais Lavezzi était bon, mais tu sais, ça n'a pas été. Tu avais Thiago Silva, tu avais Cavani, tu avais Maxwell aussi. Tu avais Di Maria, tu avais des joueurs qui. Même avec Laurent Blanc, qui pour moi, en tout cas, était autre que Carlos Ancelotti, était le meilleur entraîneur que le PSG a eu sous cet an-là. Puis, il réussissait quand même à faire des miracles, malgré qu'une équipe qui est sur le papier était peut-être moins talentueuse que celle du Paris Saint-Germain aujourd'hui, surtout au niveau des vedettes. Mais n'eût été que, au final, on dirait qu'il comme, il y a eu un recul au cours des dernières années. Je ne sais pas si le recul est arrivé parce qu'ils ont donné trop d'importance à Mbappé et à Neymar depuis 2017, mais ils n'ont pas su remplacer Thiago Motta, ils n'ont pas su remplacer Blaise Matuidi. Ils avaient Adrien Rabiot qu'ils ont vendu à Juventus, que ce Adrien Rabiot aurait pu être vraiment utile à ce milieu de terrain-là du Paris Saint-Germain.
Ouais, il y avait des problèmes dans le vestiaire avec Rabiot, mais ça. Ouais, je comprends.
Mais ça, il y avait des... Mais c'est ça, t'es. Fait que t'avais ça. Thiago Silva qui était le meilleur défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais ils n'ont quand même pas réussi à le remplacer 100%. Bon, il y a Marquinhos, Kimpembe, Ramos, puis Danilo Pereira qui utilise en défense, mais même là, on dirait qu'ils n'ont pas été capables de retrouver ce leadership-là. Puis on dirait, je ne sais pas si c'est depuis la première remontada contre le FC Barcelone qui a amené un genre de bloc mental avec des champions, mais. J'ai l'impression que, pour vrai, ils ont stagné depuis 7 ans. Là. Fait que je trouve ça triste ce qui se passe par Saint-Germain, pour vrai. Là.
C'est triste. Puis, tu sais, j'ai tenté d'aimer le Paris Saint-Germain dans les dernières années, mais avec ce qui se passe, entre autres, cette saison, tout ce que j'ai nommé tantôt, je suis pas capable de cheer, là, de prendre pour ce club-là avec tout ce qui se passe. Bref, ça va être à suivre, tout ça. Et pour finir sur Messi, qu'est-ce que tu penses de l'Arabie Saoudite? Tu sais, moi... J'aimerais pas là, que Messi et Ronaldo, les deux meilleurs joueurs de la dernière génération, se retrouvent en Arabie Saoudite dans une ligue que tout le monde se kiké. Vous connaissez la suite. Là. Fait que, bref, Moi, je pense que Messi aura encore sa place en Europe. La seule place qu'il pourrait retourner, c'est au Barça. On en a déjà parlé. Mais anyway, le Barça, monétairement, n'a probablement même pas la capacité de l'accueillir. Sinon, ce qui serait fou pour nous en Amérique du Nord, c'est la MLS. Ça ne semble pas être dans les plans présentement.
Non.
Bref, je vais être. Si l'an prochain, Messi et Ronaldo sont en Arabie Saoudite, je vais être triste, honnêtement. Je vais,
mais en même temps, ils sont plus dans leur prime. Donc,
Zlatan joue en Europe à 41 ans. Messi et Ronaldo peuvent très bien à 35 et 37.
C'est des joueurs à part. Là. Mais c'est pas tout le monde qui est de même.
Ronaldo et Messi sont des joueurs à part. Là.
Attends, laisse-moi préciser. Dans le sens que Modric, je trouve ça fou que ce Modric fait parce qu'athlétiquement, on dirait qu'il n'a pas perdu. Mais tu vois que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont beaucoup perdu athlétiquement depuis quelques années. Puis écoute, Modric puis Zlatan Ibrahimovic, eux autres sont capables de faire des ce qu'on appelle sont capables de réduire leur salaire. Est-ce que Cristiano Ronaldo et Messi vont être capables de réduire leur salaire? Impossible.
Ça, c'est un bon point. Jamais. C'est un bon point. C'est un bon point que l'enjeu salarial, c'est un enjeu énorme. Puis c'est probablement pour ça, entre autres, que Ronaldo ne s'est pas trouvé de club en Europe.
Et moi, je finis là-dessus. Là, je trouve ça bizarre que Messi dit « Ah, le Barça, il m'a tout donné, mais il n'est pas capable de réduire son salaire. T'es milliardaire, man. Ça change quoi? Si tu revenais au FC Barcelone, tu peux faire comme Piqué. Piqué était prêt à jouer gratuitement au FC Barcelone s'il pouvait. Mais il n'y a pas d'amour du maillot. Là. Il y a de l'amour de l'argent, mais il n'y a pas d'amour du maillot. Parce que je te dis que...
Tu dis, le gars, c'est bon, il est à l'argent, ça, c'est je suis d'accord.
C'est normal.
Mais on ne peut pas dire que Lionel Messi n'a pas l'amour du maillot avec le Barça. Il est un dieu à Barcelone. Il a adoré Barcelone. Il a pleuré en quittant le club parce que c'était pas sa décision, c'était financièrement. Fait qu'il y a l'amour du Bayo pour le Barça.
Mais c'est ça, je te dis.
Peut-être pas pour le PSG, mais il est pour le Barça.
C'est ça, je te dis. Je te dis que si t'avais l'amour. Je te dis, Ali, moi je te dis ça, mais parce que moi, on n'a jamais joué au football professionnel, tout le monde, mais je te dis que moi, si j'étais vraiment amoureux d'un club, je serais prêt à jouer à un peu de salaire s'il faut pour rester. Mais moi, c'est ça, je te dis. C'est que moi, à un moment donné, oui, peut-être qu'il reste quand même un attachement fort pour ce club-là, de ces personnes qui lui a tout donné, mais de là, dire que c'est l'amour fou.
Ouais, mais c'est pas encore fait. Peut-être qu'il va accepter une baisse de salaire. C'est à voir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que là-dessus, il semble prioriser l'argent à son club de cœur. Et pour la planète soccer en entier, à part pour les Saoudiens, là, ça serait juste plate de voir Messi, Ronaldo jouer dans une ligue qu'on ne regarde presque pas. Fait que voilà. Mais mon point, c'était juste que ils sont clairement capables de jouer dans une équipe du top 5 européen, ne pas être titulaire à tout le temps, au pire, là, mais ils ont clairement encore le calibre tant qu'à moi. Messi à 35, là. À 35, là, il y a bien des joueurs qui sont capables de performer dans les grandes ligues, surtout quand tu es le meilleur de l'histoire ou l'un des meilleurs. Ouais. Fait que voilà, bon, c'est assez pour Messi. Il nous a bien fait jaser. C'était toute une belle discussion, Messi et le PSG. Rapidement, on va aller du côté de du championnat anglais, de la PL. Ce que Thomas redoutait, ce que moi-même je redoutais parce que City a assez gagné dans les dernières années, mais ils l'ont fait encore. Arsenal n'a pas tenu et Manchester City se dirige vers un autre titre en championnat anglais. Bon, présentement, ils ont seulement un seul point de différence avec Arsenal, mais ils ont un match en main. Il leur reste 4 matchs à jouer, 3 pour Arsenal. Donc, à moins pour que Arsenal ait une chance, il faut que City échappe 5 points, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait quoi, ça serait une nulle, une défaite ou 3 nuls, ce qui va être très compliqué.
Oui, non, c'est hyper compliqué. Puis, malheureusement pour Arsenal, j'ai vraiment l'impression que ils ont le fait d'avoir perdu le match contre City, les écouter le titre. Mais écoute, des matchs nuls qui ne devaient pas arriver sont arrivés pour Arsenal. Le match nul qui s'est transformé presque en défaite contre Southampton de 3-3. Ouais. C'était assez particulier de voir ça.
Ce genre de match. Southampton, c'est les derniers de PL. Tu peux pas échapper ça.
C'est exactement. Il y a eu aussi, évidemment, il y a eu le match nul contre Liverpool qui s'est presque transformé en défaite aussi. Ça aussi, ça nous a fait de mal. à Arsenal. Puis évidemment aussi, un autre match nul, celui contre West Ham aussi à l'extérieur.
Ouais.
Ça aussi, ça fait mal. Fait que tu as 3 matchs nuls consécutifs avant d'affronter Manchester City à l'extérieur. C'est ça qui a coûté le titre, à mon avis, à Arsenal. C'est des matchs nuls qui n'auraient pas dû. Bon, Liverpool, je peux comprendre parce que tu te retrouves contre une équipe qui joue au Anfield.
Et qui avait très faim, là.
Qui avait très faim, donc c'était très. Malgré qu'il y a un problème de mi-temps important. Là,
ouais, non, c'est sûr, mais en deuxième mi-temps.
Mais bon, reste que, à part Liverpool, t'as eu 2 matchs nuls qui sur des rencontres que normalement t'aurais dû gagner.
West Ham, Southampton, c'est pas pardonnable. Ouais.
C'est ça. Mais surtout, Southampton à domicile. Pour moi, c'est le match qu'ils ont fait couler. Là. Moi, je le savais à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. C'est fini.
C'est ça pour Arsenal. Ouais. Quand ils ont amené ça à 3-3 et qu'ils ont continué de presser et d'avoir des occasions, je me suis dit, ce serait complètement fou que ce match-là décide du titre s'ils vont chercher le 4e but. Ils ne sont pas allés chercher le 4e but et c'est peut-être qu'il va leur coûter leur saison. Bref, on ne sait jamais ce qui se serait passé s'ils avaient gagné ce match-là. Ils seraient plus proches de City, en tout cas, ça c'est sûr.
Yes.
C'est ça pour la Arsenal, le City. Fait qu'à moins d'un gros drame, Manchester City vont encore une fois gagner ce championnat anglais. Je veux pas qu'on parle de Liverpool. On est des fans de Liverpool tous les deux. Mm-hmm. Il y a 2 mois, on était complètement désespérés. Maintenant, Liverpool est non seulement en Europa League, 5e position, mais est aussi à 1 point de Manchester United pour la place en Ligue des Champions. Et bon, United a un match en main, mais United peut très bien échapper des points, ça, on le sait. Là. C'est pas mal plus probable que City. Fait que un petit mot sur Liverpool.
Écoute, je pense que tout va mieux. Les retours de blessés font du bien aussi du côté de Liverpool.
T'as Diaz.
T'as Jota que ça fait quand même beau qu'il revenait, mais ça aussi, ça a fait du bien à Liverpool. Puis c'est ça, on dirait que c'est juste le momentum de Liverpool qui est revenu très tranquillement. Ça a été une saison très laborieuse, surtout sur les blessures en début de saison. T'as le départ de Sadio Mané aussi, où ils n'ont pas vraiment eu un bon remplaçant pour Mané. Puis également, t'as eu le début un peu là de Darwin Nunez. T'as eu le début.
Et de Gakpo.
Et de Gakpo aussi. Mais Gakpo.
Et de Salah.
Moi, je trouve que. Ouais, Salah aussi. Mais je trouve que Gakpo, c'est un peu plus compréhensible que Darwin Nunez. Parce que c'est. Mm-hmm. Tu sais, t'arrives dans un mercato d'hiver, tu t'adaptes à la première ligue.
C'est vrai.
Ça prend du temps, là, des fois, pour n'importe quel joueur, de vraiment s'adapter au style de jeu de la première ligue. Surtout quand t'arrives dans une moitié de saison, c'est plus difficile. Malheureusement, c'était ça qui est arrivé à Cody Gakpo, mais il va de mes amis. J'ai l'impression que la procession, ça va très bien aller pour lui. Darwin Nunez, bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur, on peut le voir. Il a beaucoup de gâchis, mais surtout, moi, je trouve dans la deuxième moitié de saison, je trouve qu'il est clairement supérieur. Ce gars-là a une rapidité. Il est très bon pour son positionnement. Sur ce problème, c'est ça, je te dis, c'est que des fois, il y a un manque de finition, puis c'est le problème de. Dans la majorité des joueurs de première ligue, là, pour vrai, à part les grands joueurs, là, un peu. Les Haaland. Puis écoute, chapeau à Haaland quand même, là, il est devenu meilleur buteur de l'histoire de la première ligue.
C'est complètement fou. Là. Il a non seulement battu le record de Salah qui était de 31 buts sur
32 sur 38.
Non seulement battu celui-là, il a aussi battu le record de Alan Shearer et d'un autre gars que j'oublie.
Andy Cole, légende de Manchester United.
Exact. Andy Cole et Alan Shearer qui a fait 34 sur 42 matchs. Et là, Alan fait les grands jeux à 35. 35 sur, je pense que c'était 31 matchs. Fait que c'est plus qu'un but par match. C'est absolument fou. Fait que tu fais bien de parler de ce record-là.
Tu sais, Ali, faut dire, là, c'était drôle qu'il y avait quand même des gens qui doutaient de Erling Haaland, puis qui disait est-ce qu'Erling Haaland va être capable de jouer en première ligue? J'étais comme, est-ce qu'Erling Haaland est capable de jouer en première ligue? Tu regardes ce joueur-là, tu regardes comment il est physiquement. Il y a vraiment des gens qui ont douté de si Erling Haaland était capable de marquer des buts en première ligue. Je trouve ça quand même drôle, qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais rajouter.
Ben écoute, il y a des changements de ligue parfois qui sont très difficiles pour certains joueurs, mais j'avoue que je doutais pas vraiment d'Haaland. Est-ce que je pensais que dès sa première saison, il allait battre le record de buts en une saison fait en Premier League? Non, mais je m'attendais à ce qu'il soit bon. Puis écoute, Pep Guardiola avait dit que Sergio Agüero ne serait pas remplaçable. Bon, c'est un style différent complètement, mais il faut dire qu'il l'a remplacé là, très bien, Sergio Agüero et Erling Haaland. Donc, bon, ça fait, on a déjà dépassé le 1 heure, fait qu'on va y aller rapidement pour les autres ligues. PL, on l'a dit, c'est City. Voilà. Ensuite, en Serie A, l'Italie, Naples est officiellement championne. D'Europe, félicitations à eux. Quelle saison pour Naples, une très belle équipe. Osimhen, Kvaratskhelia. Seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas été capables de concrétiser en Ligue des Champions. Voir, les voir en finale de la Ligue des Champions, j'aurais bien aimé. J'aurais mieux aimé ça que les 2 Milan, honnêtement, mais ils ont échoué face à l'AC Milan. Rapidement, un petit mot sur cette belle équipe de Naples.
Écoute, une équipe qui, en début de saison, en leur cadant, t'es comme, bah, écoute, il y a quand même des joueurs qui sont partis. T'as Insigne qui est parti, t'as Koulibaly qui est parti. T'avais quand même des cadres de l'équipe de Naples au cours des 6 ou 7 dernières années qui sont partis.
Ouais, Mertens
aussi. Donc, t'as vraiment des gros joueurs. Puis, écoute, c'est absolument extraordinaire de la part de cette équipe de Naples transportée par un Nigérien, Victor Osimhen, qui est devenu qui devient tranquillement une idole du côté de Napoli. Et également, ben, t'as le gars que c'est. J'ose même pas. Je m'étais pratiqué, mais je me suis dit un jour je vais y arriver là. C'est quoi? C'est
Kvaratskhelia. Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia, ça? Ah, Kvaratskhelia. Ok, Kvaratskhelia, ouais, bon, écoute, la saison extraordinaire de Kvaratskhelia. Non,
Kvaratskhelia.
Ah, Kvaratskhelia, ok. Ok, Kvaratskhelia, c'est bon, ça. Le début de saison de Kvaratskhelia. Bon.
Faut juste que tu mentionnes, tu prononces le K.
C'est ça, Kvaratskhelia. Ah, ok, bon, je comprends. Bon, écoute, ça. Ben, écoute, ça change pas que Georgien est extraordinaire cette saison.
Oui, tu peux l'appeler Georgien, on va comprendre.
Non, mais Kvaratskhelia, t'inquiète, je vais retourner Kvaratskhelia. Bon, bref, le Georgien Kvaratskhelia a été extraordinaire du côté de Naples. Sa première saison, là-bas, il a nagé sur la Serie A. Un autre en défense qu'il faut le mentionner. Pour moi, un des meilleurs défenseurs au monde, Minjai, qui est absolument extraordinaire cette saison à Naples. Puis lui, il ne faut pas l'oublier, lui, il a raté le match retour de Ligue des Champions aussi. Fait qu'il y a eu plusieurs. La défaite, malheureusement, de Naples en quart de finale contre la Simila s'explique par des blessures et des suspensions qui sont arrivées des positions clés. T'as Minjai qui était pas là. Je pense que. Aussi, t'avais Anguissa qui était pas là aussi.
Anguissa, ouais, Zambo.
Qui était pas là. Bon, bref, vraiment une belle équipe de Naples. Puis moi, j'ai hâte de voir l'an prochain, de voir s'ils vont être capables de répéter cette séquence-là. Puis quand c'est ta premier titre en Serie A pour Naples depuis 1990, puis je pense que Diego Maradona joue encore à Naples à ce moment-là. Là, c'est pour dire à quel point ça faisait longtemps que Napoli avait besoin de gagner un titre de Serie A. Puis écoute, tant mieux. Hein? Puis, putain, je vais en parler très, très, très brièvement. Là, mais il y a quand même, moi, je trouve qu'il y a quand même une belle. Il y a un bel équilibre du côté de la Serie A. Là, une belle partie. Si on regarde les quatre derniers gagnants de la Serie A, c'est 4 équipes différentes. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu as eu Juventus. T'as eu l'Inter de Milan en 2021,
t'as eu l'AC Milan l'an dernier.
L'AC Milan l'an dernier, puis là cette année t'as Naples. Fait que déjà là, ça va être pas fait. L'an prochain, ça va être
la Rome. Ça reste à voir. Écoute, c'est peut-être hot take ce que je vais dire, mais avec cette parité-là, puis le nombre d'équipes qu'il y a, de très bonnes équipes qu'il y a en Serie A, pour moi, c'est la deuxième meilleure ligue au monde. Ça sera pour un prochain épisode, ce débat-là. Mais mais je l'ai dit, moi, la Serie A est tout de suite après la pire dans mon classement. Mais ça sera pour un... Comment?
Moi, je ne suis pas d'accord, mais vas-y, continue.
C'est pas grave. On va avoir un épisode au pire où on en jasera longuement. Ça va faire plaisir à nous et on l'espère à vous, auditeurs. Pour finir, Bundesliga à suivre encore la course entre Dortmund et Bayern. Ça l'achève vraiment cette saison-là. Bayern est légèrement devant pour le moment. mais leur titre pourrait leur échapper pour la première fois en 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et sinon, en Ligue 1, PSG devrait voguer vers le titre. Lyon est proche de l'Europe. Marseille, Lens, ça se dispute. RC Lens, vraiment belle équipe à avoir joué. Et sinon, il manque une ligue qu'on n'a pas faite. L'Espagne, ben, c'est le Barça qui va gagner.
Ouais, puis le Real est troisième aussi.
Le Real est troisième derrière l'Atlético. Ça, c'est... Mm-hmm. T'sais, on parle comment le Real est puissant et dominant en Ligue des Champions. En Liga, c'est très décevant, honnêtement, cette année. Là. Mais c'est une fois qu'ils ont su, une fois que Barça avait trop d'avance et qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le titre, quasiment comme si ils ont laissé de côté la Liga et ils se sont juste concentrés sur la Ligue des Champions, quasiment. Sur la Copa del Rey qu'ils ont gagné, il faut le dire, la semaine passée, je pense. C'est vrai. Mais c'est ça, ils ont laissé de côté, il est pas mal à la Liga, là, on va se le dire. Là. Une fois que c'était déjà perdu contre Barça, Ancelotti ne mettait pas les meilleurs effectifs. Et même les joueurs ne semblaient pas si... Benzema a fait un quadruplé, mais bref. C'était pas le meilleur Real Madrid qu'on voyait sur le terrain en Liga, comparativement en Copa del Rey ou en Ligue des Champions. Fait que ça fait le tour des grandes ligues. On a parlé de Messi, on a parlé de la Ligue des Champions, on a parlé de CF Montréal. Je te laisse le mot de la fin, Edou, pour cet épisode 9 de Jason Malonron.
Mesdames et messieurs, je suis persuadé et je pense que l'Inter de Milan va remporter la Ligue des Champions.
Cool. C'est ça que je pense. Moi,
ouais, je pense ça. Honnêtement, plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'une des deux équipes... Parce que, bon, tout le monde va dire, ben là, c'est le gagnant entre City et le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions. Mais écoute, j'ai l'impression que ces deux équipes-là vont se fatiguer, ils vont se retrouver en finale contre l'Inter de Milan et ils vont perdre. Malheureusement, c'est ça que je pense. C'est ça.
Tu sais que la fatigue, c'est pas un enjeu parce que beaucoup de jours de congé là, d'ici la finale de la Ligue des Champions, c'est comme fin juin, je pense.
Ouais, mais regarde, t'as le Real Madrid qui c'est leur compétition. Puis à un moment donné, ils doivent perdre à un moment donné. Fait que soit ils vont perdre en deux matchs retour, soit ils vont perdre en finale. Puis t'as Manchester City qui est une équipe maudite. Fait que...
Ouais,
c'est en tank. Je pense pas que ça va arriver, mais c'est en tank.
Tu penses que ça va arriver, c'est ça que t'as dit?
Ouais.
Et ça me jette à terre. Honnêtement, je m'attendais pas à ça comme hot take, mais ça finit l'épisode sur un cliffhanger. Yep. C'est merveilleux. Puis je retiens ça pour l'épisode proche de la finale. Je vais te revenir avec ça.
T'imagines que la similaire remonte, puis là, bam, fini.
Et là, ton hot take va être terminé d'un coup. Mais honnêtement, comment je les ai vu jouer hier, je n'y crois pas. Fait que, bref, merci pour ton hot take, Dou. Merci pour ta présence. Yes. C'était encore une fois extrêmement plaisant de jaser soccer avec toi. Mm-hmm. Puis voilà, fait que merci. Merci, chers auditeurs. Et on vous souhaite une très bonne suite dans cette actualité de la planète soccer. Et on vous dit à bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon Rond. Merci.